Philippe, gros match pour le Canadien ce soir. Tu l'as dit d'entrée de jeu à l'émission, contre Winnipeg, contre Toronto, il n'y avait pas d'attente. C'était, écoute, c'était le crémage sur un gâteau inexistant.
Oui, tout à fait.
Puis là, contre Las Vegas, là, il y a des attentes.
Ouais, les attentes sont considérables parce que le Canadien a réussi un parcours improbable jusqu'à maintenant. Battre les Maple Leafs de Toronto après avoir tiré de l'arrière 3-1, une machine offensive aussi puissante, même privée de John Tavares, il en reste pas moins que c'est une équipe tellement pleine de talent, les Maple Leafs. Le Canadien a passé à travers ce défi-là, gagne les trois derniers matchs de la série, donc se qualifie de façon tout à fait étonnante pour le tour suivant. Et là, le tour suivant, il arrive quoi? Ben, non seulement il bat les Jets de Winnipeg, il pulvérise les Jets de Winnipeg en 4 matchs consécutifs. Il y a même pas eu de série. Ça a été à sens unique du début jusqu'à la fin. Alors là, ça change tout. Ça change les attentes. Et moi, je te dirais que le plus important pour le Canadien, c'est que tu as des joueurs qui commencent à vieillir dans cette équipe-là. Je pense notamment à deux des piliers de l'équipe, Carey Price, le gardien de but, et Shea Weber, le capitaine. Weber, c'est la première fois qu'il participe à une demi-finale de la Coupe Stanley dans sa carrière. Auparavant, avec Nashville, il s'était jamais rendu aussi loin depuis son arrivée avec le Canadien non plus. C'est un gars qui a un parcours remarquable. Il n'a jamais gagné de trophée Norris, mais il y a une aura dans la Ligue nationale. Il est apprécié de tout le monde. Mais tu sais, il manque ça à sa feuille de route, là. Coupe Stanley. Carey Price, exactement la même chose. Carey Price a gagné à peu près tous les trophées qu'on peut imaginer. Il a gagné à tous les niveaux, mais il n'a pas gagné la Coupe Stanley. Et là, contre toute attente, il y a une opportunité qui s'est dévoilée cette année. Personne ne s'attendait à ça. Et là, le Canadien continue d'avancer. Et là, ces joueurs-là, là, sont à 6 matchs de remporter la Coupe Stanley. Puis, ils savent qu'ils n'ont peut-être pas une équipe aussi forte que ça, mais les choses tombent en place de la belle façon au bon moment. Puis, derrière leur tête, là, ils doivent se dire, tu sais, on n'est pas si jeunes. Là. Ça ne veut pas dire que, tu sais, si on rate notre coup cette année, il y aura l'an prochain, puis il y aura l'autre année, puis il y aura l'autre année après. Là.
Philippe, il y a des équipes comme ça, là. Mes références commencent à dater, là, mais par exemple, les Islanders de la fin des années 70, on savait que c'était la prochaine équipe. Après ça, on savait que les jeunes Oilers allaient monter. Là. On savait que la domination du Canadien était finie. Le Canadien, aujourd'hui, n'est pas de ces équipes-là.
Pas du tout. Non, on peut pas dire que le Canadien est l'équipe qui va dominer, là, clairement, la Ligue nationale pour les 5 prochaines années.
Je pense qu'on a montré
des
belles choses.
Oui.
Mais de là à dire que le meilleur est à venir... On va se calmer un peu.
On va se calmer. Alors donc, mais là, il y a une opportunité absolument exceptionnelle. Alors c'est sûr que ces joueurs-là veulent la saisir. Puis je pense à même des plus vieux, Corey Perry, Eric Staal, oui. Ajouter une coupe à leur palmarès à ce moment-ci. Ça serait déjà, c'est formidable. Bon, ils ont déjà goûté au champagne de la victoire, mais tu sais, les occasions sont rares. Alors j'ai l'impression que les plus vieux joueurs de l'équipe expliquent ça aux plus jeunes. Parce que quand t'es Cole Caulfield, t'es Nick Suzuki ou Jesperi Kotkaniemi, tu vois ça avec les yeux de l'innocence de la jeunesse, puis tu dis « Hey, voyons, ma deuxième année dans la Ligue, dans le cas de Caulfield,
ça va revenir. »
Ben oui, écoute, on est en demi-finale, on va probablement y être dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça dans le hockey. Tu peux faire une demi-finale une année, puis pas être là pendant beaucoup, beaucoup d'années après. Alors, il faut que tu saisisses la chance. Moi, j'ai l'impression que pour le Canadien à l'heure actuelle, le meilleur facteur de motivation, c'est celui-là. J'ai l'impression que les joueurs plus âgés dans l'équipe le rappellent aux jeunes. « Hey, les boys, là, faut pas qu'on rate notre chance. » C'est là, on a une occasion. Donc ça, je pense que c'est un puissant facteur de motivation pour le Canadien. Et tu jumelles ça à un Carey Price qui est absolument extraordinaire depuis le début de la série. Il n'y a pas eu de moment des séries. Il n'y a pas eu de moment de faiblesse. Ça donne des belles chances aux Canadiens. En revanche, de l'autre côté, tu as un groupe de joueurs qui se rendent assez loin en série depuis quelques années. Ils n'ont pas gagné la Coupe eux non plus. Donc, c'est bien beau se rendre en demi-finale, puis une fois en finale, mais tout à coup, tu te dis, coudonc, ça serait le fun
pour
de
Vegas,
concrétiser.
Il y a des attentes.
Des attentes qui sont énormes. Et là, tu te retrouves avec cette équipe-là avec une controverse de gardien de but. Parce qu'on le veuille ou non, il y en a une. C'est le Leonard Fleury, c'est le Price à lac d'une autre époque chez le Canadien. Puis là, on ne sait plus qui va garder le match de ce soir. Je te disais tantôt que Fleury avait été le premier à quitter la patinoire. Donc, signe peut-être qu'il serait le gardien utilisé ce soir. Mais là, on apprend sur le site de RDS que Robin Leonard aurait crié à Fleury, il sort en premier, justement, pour mêler un peu les analyses. Alors, bon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans tout ça? On le saura tantôt. tantôt. Mais il en reste pas moins que pour l'entraîneur des Knights de Vegas ce soir, Patrick, c'est une décision qui est colossale à prendre. Tu peux pas te tromper. Et il faut que tu choisisses le bon gardien. Mais là, Leonard, il a été très bon à Montréal. Mais on sait, c'est un gars qui, des fois, peut avoir des problèmes avec sa concentration. Est-ce qu'il va être aussi bon à Vegas devant ses partisans? Fleury, qui a fait une bourde dans le dernier match qu'a gardé à Montréal. Est-ce qu'il est prêt à revenir puis à être à son meilleur niveau? T'sais, donc, il y a une incertitude là. Donc ça donne un avantage aux Canadiens.
OK, parlons de soccer parce qu'à l'Euro, il y a un petit scandale. Hein? Que serait une grande compétition sans un petit scandale ouais. Politique ou social? Là, il y a un gardien de but qui a porté là, le fameux drapeau arc-en-ciel des LGBTQ et ça a causé une petite controverse.
Ben, en fait, c'est pas vraiment ça qui a posé une controverse. C'est que ce qui est arrivé, c'est que le 15 juin, donc il y a quelques jours à peine, le gouvernement hongrois a adopté une nouvelle loi. Et cette loi-là interdit, et là je cite le texte le texte législatif, interdit la promotion, dit-on, de l'homosexualité auprès des mineurs. Alors c'est une autre mesure contre la communauté LGBTQ du gouvernement de Viktor Orban. Alors évidemment, partout en Europe, il y a des questions qui sont soulevées parce que la Hongrie est membre de l'Europe, fait partie de cet ensemble de pays qui forment l'Union européenne. Alors là, on se demande, est-ce qu'ils ont le droit ou est-ce qu'en agissant ici, en adoptant une loi comme celle-là, est-ce qu'ils contreviennent à la législation européenne? Alors là, pour le match d'aujourd'hui entre l'Allemagne et la Hongrie qui est disputé à Munich, la ville de Munich a dit, nous allons prendre notre stade et nous allons, il y a moyen de l'éliminer de l'extérieur là, avec des lumières partout, nous allons l'éliminer aux couleurs de l'arc-en-ciel qui est bien sûr le symbole des droits de la communauté LGBTQ. Et là, ils ont transmis ça, cette information à l'UEFA, à l'Union européenne de football, qui gère le tournoi, en disant « Voici notre intention, c'est d'éliminer le stade aux couleurs de l'arc-en-ciel. » Et l'UEFA a dit « Non, vous ne faites pas ça. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Vous ne pouvez pas faire ça parce que même si nous, on partage les valeurs et le sentiment que vous voulez défendre, nous, l'UEFA, on est une organisation, et là je cite encore une fois le communiqué qui est cité par le magazine français L'Express, qui dit « Nous, on est une organisation politiquement et religieusement neutre. Alors, on ne peut pas véhiculer un message qui vise spécifiquement un pays ou un gouvernement. » Ben oui, mais là, c'est une question de droit humain. Là. Ça dépasse le gouvernement, ça dépasse le pays. Non. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors là, ça crée tout un coup de tonnerre. Et là, les articles, c'est partout. Il y a beaucoup de chefs d'État en Europe qui ont dit, écoutez, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas permettre ça parce que c'est donné à la limite raison à Orban et à son gouvernement. Alors, c'est ça qui crée la polémique à l'heure actuelle. Et on appelle ça le Rainbow Gate. Rainbow, c'est le mot anglais pour arc-en-ciel. Et gate, bien sûr, là, on appelle tout ça des gates depuis le Watergate en 72.
OK, et ça, c'est une histoire intéressante. Dans la NFL, il y a un joueur actif, pas un ancien joueur, qui fait un coming out.
Oui, tout à fait. C'est arrivé hier en fin de journée. Il s'appelle Carl Nassib. C'est un joueur de ligne défensive pour les Raiders de Vegas. Et sur Instagram, il a publié une vidéo, lui, en disant « Écoutez, je suis gay. Je veux le dire, c'est pas pour attirer l'attention sur moi, mais je pense que pour la représentation et la visibilité et la défense des droits des gays et de toute la communauté LGBTQ, c'est important qu'on le fasse. » Écoute, la nouvelle a été reprise partout dans le monde. Pour moi, Patrick, c'est une nouvelle majeure dans le sport professionnel d'équipe aux États-Unis et au Canada, partout en Amérique du Nord, qu'un joueur comme ça qui est encore actif, il y a eu des anciens joueurs qui l'ont fait, il y a eu des joueurs qui allaient être choisis au repêchage mais qui n'ont pas réussi à jouer dans la NFL qui l'ont dit aussi, mais c'est la première fois qu'un joueur actif le fait. Et c'est pas n'importe qui, ce gars-là, c'est un gars qui a un bon contrat dans la Ligue nationale de football, il y a un contrat garanti qui lui vaut au moins 17 millions de dollars d'argent garanti, donc c'est sans être une superstar, c'est un très très bon joueur, et là, c'est évidemment ça a suscité une foule de commentaires et d'approbation là, un peu partout.
Parce qu'il me semble que dans le sport professionnel nord-américain, en tout cas chez les hommes, il n'y a pas beaucoup... Écoute, même pas sûr qu'on serait en 10 exemples de joueurs actifs.
Non, tout à fait. Puis tu as raison de le dire chez les hommes. Chez les femmes, c'est c'est différent. On est plus ouvert de ce côté-là. Et je pense qu'il y a des exemples qui ont été donnés, notamment la capitaine de l'équipe de soccer américaine, Megan Rapinoe, là, qui a toujours porté ce flambeau-là très, très haut. Et là, donc, c'est pour ça que pour moi, c'est un geste important qu'a fait Carl Nassib hier. Ça s'inscrit dans la liste des précurseurs du sport professionnel nord-américain. C'est c'est-à-dire des gens qui décident de porter sur eux un enjeu comme celui-là. Et c'est pas facile dans le sport professionnel, peut-être encore plus, comme tu le dis, chez les hommes. Et c'est, je pense que dans le sport professionnel d'équipe aussi, c'est assez unique.
Très bien. 15h33, Mme Beauchamp, c'est l'heure de la liste d'écoute sportive après la pause.
Une mini-liste, mais on va parler de Metallica aussi. Ça donne du pep. Ça met de la mine dans le crayon. Ils vont gagner.
Presque 15h34.